Salut tout le monde et bienvenue à une autre édition de Sortie de zone. Mon nom c'est Jérémy Filosa. Merci d'être là en notre compagnie à la suite de cette victoire du Canadien 2-1 dans le match numéro 1 de cette série entre le Canadien et les Maple Leafs de Toronto. À mes côtés, Jérémy Rainville du 98.5. Salut Jérémy.
Salut Philo.
Michael Lalancette à Québec. Salut Michael.
Salut Philo.
Et Alexandre Pratt de la presse. Salut Alex.
Bonjour messieurs.
Alors messieurs, on va se plonger assez rapidement dans le sujet de John Tavares là, mais pour mettre la table avant la blessure de John Tavares, le Canadien, clairement, en ce début de match, voulait lancer un message. Voulait lancer un message que cette série-là, ça allait faire mal. On a appliqué énormément de mises en échec là, dans les 10 premières minutes du match. D'ailleurs, le Canadien a fini le match avec 55 mises en échec contre 27. Ça semblait être le plan de match, peut-être pas de blesser un adversaire. Mais Jérémy, je pense que c'était la semaine dernière où tu m'avais dit « Watch out, le jeu physique, ça va être une grosse partie de cette série-là, ou du plan de match pour le Canadien. »
Ben écoute, c'est la seule façon pour le Canadien espérer être capable de vaincre les Leafs de Toronto, c'est-à-dire d'être omniprésent dans le visage de l'équipe adverse. En bas de ça, ben ça donne une deuxième période où tu as vu les Leafs de Toronto qui ont commencé à prendre un petit peu plus le contrôle. C'est sûr qu'il faut être intelligent dans l'application des mises en échec, mais je pense qu'en première période, le Canadien a démontré beaucoup d'intensité. Et plusieurs, dont toi, Philo, tout le monde se questionnait à savoir, est-ce que ce club-là sera capable d'arriver du jour au lendemain et d'être assidu à la tâche, de faire le boulot, ben on a eu la réponse pour la première période et pour le premier match. Maintenant, on verra pour la suite des choses, mais vraiment, la première période a donné le ton pour moi aux Canadiens et Anderson qui a marqué un but spectaculaire encore une fois. Donc, ça fait en sorte que le Canadien a commencé avec un tempo extrêmement élevé, puis tu l'as mentionné, beaucoup de mises en échec.
Exact. Et là, ben il y en a une de ces mises en échec-là, celle de Ben Sherratt, qui fait en sorte que Tavares tombe d'une façon un peu bizarre, disons. Il est frappé au thorax, mais aussi à l'intérieur de la jambe. Et en tombant, ben que voulez-vous, il reçoit le genou de Corey Perry derrière la tête. Et j'ai comme l'impression que le jeu physique, qui selon moi a un peu surpris les Maple Leafs, a fait en sorte qu'on a eu la réaction qu'on a eu des Maple Leafs après cette blessure-là de John Tavares. Mais Alex, comment t'as vu la mise en échec de Ben Sherratt sur Tavares? Est-ce que sur le coup, tu t'es dit « Oh, pas là, ça se peut même juste sur cette mise en échec-là qui se relève pas ou qui soit blessé? »
Ben en fait, comme tel, je pense pas qu'on ait vu la mise en échec quand elle est arrivée. Là, le jeu s'était vraiment déplacé. Puis, tu sais, quand on a vu la reprise, c'est quand même une mise en échec absolument normale. Puis, je veux dire, si Corey Perry passe pas par là en même temps, il y a rien, là. Il tombe à terre normal, puis il se relève en date d'une seconde. C'est pas la mise en échec de Sherratt qui a causé le dommage. Là. C'est vraiment l'impact du genou de Corey Perry qu'on voit, là, tu sais, qui vraiment, là, presse la tête de Tavares contre le reste de son casque. D'ailleurs, on l'a pas vu à la télé. Ou en tout cas, la télé a coupé l'image dès que c'est arrivé, en fait, mais il s'est mis à saigner, mais vraiment abondamment, John Tavares. On le voit ce matin dans les journaux, les photos, mais hier, on l'avait pas vu jusqu'à la fin du match. Et il était tout ouvert, là, au-dessus de l'œil, le front. Donc, ça peut clairement laisser entendre là, qu'il y a eu un choc très, très, très important à la tête, là, une blessure cervicale importante. Il y a aussi eu, je sais pas c'est quoi le terme en français, j'ai cherché là, toute la soirée, mais il y a eu un « fencing response », donc un mouvement là qui est très caractéristique là, des traumatismes au niveau du cerveau, là où en tout cas les bras font une certaine réaction, puis il s'est penché par en arrière, Tavares. Donc, c'était vraiment une scène qui était épeurante. Pour moi, c'est vraiment un accident. Là.
Ouais, des genres de convulsions, là. On peut dire, là, une genre de
convulsion. Mais pour moi, peu importe qu'il y ait eu ou pas, que le jeu était physique ou pas, c'était vraiment une mise en échec qui aurait pu arriver absolument n'importe quand, là, celle de Sherratt. Puis c'est juste plate que Perry était sur... il revenait dans sa zone, puis il est passé par là. Le jeu allait trop vite, il a pas pu arrêter. Ça aurait pu arriver dans n'importe quel match. C'est pas parce qu'il y avait nécessairement plus d'intensité à ce moment-là là, que c'est arrivé. C'est un accident, je trouve absolument déplorable... Le combat que ça nous suivi là, qu'on pourrait en parler pendant une heure. Là.
On va en parler.
Je trouve que c'est absolument ridicule. Sérieusement, c'est un nouveau chapitre du code que je connaissais pas. Mon collègue Richard Lebel demandé après le match à Fonini pourquoi il s'était battu. Puis il a dit parce que mon capitaine était à terre. Laisse entendre que si ça avait été Mitchell Marner ou Zach Hyman, il n'aurait pas fait ça. T'sais, c'est absolument ridicule.
Oui, mais en même temps, moi j'ai l'impression, comme j'ai mentionné, puis je sais pas ce que t'en penses, Michael, que la réaction au moment où Tavares est blessé, et là, le Canadien applique beaucoup de pression. Il y a des mises en échec une après l'autre. Et c'est comme s'ils se sont dit, ben là, c'est pas vrai que nous autres, on va se laisser frapper de cette façon-là, qu'on va avoir notre capitaine sur la patinoire blessé, sortir en civière, puis on réagira pas. Il y a personne qui va nous le pardonner. J'ai comme eu l'impression que c'était ça, la réaction. Je sais pas ce que t'en penses, Michael.
Ouais, non, mais exactement. Puis, tu sais, ils ont eu du temps pour y réfléchir, entre guillemets, dans le sens que ça a été de longues minutes avant de, tu sais, que John Tavares soit sorti de la glace. Donc, ils ont eu le temps de réfléchir un peu à la suite. Puis, moi, j'étais pas prêt à ce combat-là. Vraiment, je l'ai pas vu venir. Je pensais pas qu'il y aurait ce genre de réaction-là. Tu sais, je peux comprendre qu'on est en séries éliminatoires, qu'on veut aller à la guerre pour des coéquipiers et tout ça. Mais, tu sais, on l'a tous vu, là, que c'est purement accidentel, c'est le coup de genou, puis les conséquences qui en ont résulté. Donc, moi, j'ai été très mal à l'aise de ça. Les explications de Foligno, je les ai trouvées très faibles hier soir. Puis, tu sais, moi, comme amateur de hockey, comme amoureux de hockey, je trouvais que ça avait pas sa place. Je trouvais que c'était complètement ridicule, complètement farfelu. Bon, dans le vestiaire, est-ce que, tu sais, un gars comme Foligno, d'autres joueurs chez les Leafs ont pu se dire, pendant ces minutes d'attente-là, ben, il faut aller à la guerre pour lui. Peu importe qu'est-ce qui est arrivé, il faut aller à la guerre pour lui. Il y a des gars de hockey qui pensent comme ça. J'en ai vu hier sur les réseaux sociaux des commentaires d'anciens joueurs, mais la plupart se sont rangés derrière le fait que ça n'avait pas de bon sens de laisser tomber les gants à ce moment-là. C'est quitte à ce que ça soit plus tard dans le match, mais bref, il y en a encore des irréductibles qui veulent voir les gars régler leur cas entre eux, même si des fois les gestes ont été accidentels.
Moi, ce que je trouve qui est ridicule là-dedans, c'est que si je suis sur la patinoire et je pense qu'on vient de commettre un geste grossier envers mon capitaine, moi, je saute tout de suite. Le gars, je le pas. Que ce soit Chiarot, si je pense que c'est Chiarot qui est responsable, ou Perry, ou peu importe, si je pense qu'il y a quelque chose qui a pas de bon sens qui vient d'avoir lieu, je saute dessus tout de suite, puis je règle ça tout de suite. Mais de revenir au banc, puis là, on attend, puis là, le gars s'en va sa civière, puis là, ben on discute, puis là, on revient au cercle de mise en jeu. Et là, on voit les gars qui sont en train de se parler, puis ils disent, ouais, toi, si t'en penses, ouais, c'est parce que là, au banc, ils viennent me dire que, tu sais, il faudrait qu'on y aille. Ouais, écoute, je sais pas. Attends, laisse-moi checker avec mon capitaine. Weber, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je pense pas. Ah, ben, garde, écoute, on y va-tu? OK, on va y aller. Puis là, c'est le même. C'est quoi cette affaire-là?
Là, je tiens à mentionner aux gens que ça fait le deuxième podcast de suite que Philo veut s'en prendre à quelqu'un. Dans l'autre podcast, c'était quand Carey Price a cassé son bâton. Oui. Il disait, hey, moi, je saute sur Carey Price, t'as pas d'allure!
C'est sûr.
Bon, ça, c'est un. Là, aujourd'hui, il va encore se battre. Philo, calme-toi. Calme-toi, là. C'est pas bon pour la santé de s'énerver comme ça, premièrement. Deuxièmement, moi, je pense sincèrement que maintenant, dans la Ligue nationale, puis au hockey en général, le geste de se battre démontre quelque chose, OK? Ça veut dire quelque chose. Bon, pour que vous acceptiez ou non, que vous aimiez ou non, ça veut dire quelque chose pour les joueurs qui sont sur la patinoire dans les différentes formations. Ça veut dire quelque chose. Hier, j'ai l'impression que personne ne savait quoi faire. On s'est fait prendre par surprise un peu. On n'a pas très bien vu le jeu. À un moment donné, on a vu que Tavares était par terre. Il y a même Price qui dit, tout le monde disait arrêtez le jeu. Tavares est blessé. Et là, Foligno s'est dit, OK, qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse quelque chose. Et là, on a décidé de faire ça. Est-ce que c'était la meilleure décision? La réponse est non, selon moi, parce que si tu te bats, c'est que tu considères que Perry a fait par exprès. Et si c'était le cas, je pense que Corey Perry aurait eu le reste du match à avoir quelqu'un qui lui donne des doubles échecs dans le visage. Fait que donc, étant donné que ça a pas eu lieu, je pense que cette bagarre-là était injustifiée. Je pense que la meilleure façon de réagir de Nick Foligno des Leafs de Toronto aurait été, selon moi, de ne pas engager un combat, mais d'avoir des présences soutenues dans le territoire adverse, d'aller brasser le gardien de but, d'aller brasser les défenseurs, de montrer de l'intensité d'une façon différente que juste on jette les gants puis on se bat. Ouais. Là, pour moi, cette histoire-là là, de ça va régler tout ou on va effacer tout avec une bataille. Oubliez ça. Il n'y a rien eu là-dedans, là. Puis une chance que Corey Perry a été gentil avec Foligno parce que Foligno est tombé par terre. Perry aurait pu arrêter le combat-là et Foligno aurait eu l'air d'un imbécile. Là, il s'est relevé debout. Il y a eu un autre, ça a continué un peu. Mais si Perry avait voulu, là, il arrêtait ça. Foligno est à terre. Ça dure à peu près, même pas 10 secondes. Tu sais, fait que donc, c'est pas la meilleure décision que Foligno a pris là-dessus. Ça, c'est sûr.
Ben, je suis pas mal d'accord avec toi. Et puis Foligno, c'est un gars quand même qui a une réputation d'être un team player, qui se présente.
Il est nouveau là. En plus, arrive avec les livres, il est nouveau dans l'organisation.
Exact, il y a cette pression-là de démontrer que il va être un leader, il va faire la différence.
Fais-le dans ton jeu. Fais-le dans ton jeu après les présences.
C'est pas aussi évident. C'est pas clair que tu vas réussir dans ton jeu. T'as dit qu'un combat, tu laisses tomber les gants, puis le combat a lieu instantanément. Donc t'as fait quelque chose concrètement.
Je suis absolument pas d'accord avec toi, Jérémy. Tu sais, absolument.
Lequel?
Jérémy Filosa. Okay. Philo, je suis pas d'accord avec toi du tout. D'abord, je pense pas que la violence est une solution à la violence, et puis pas juste au hockey, là, dans la vie de façon générale. Tu sais, puis je suis d'accord avec Jérémy Rainville. La meilleure façon de répliquer, c'est de marquer un but. C'est sûr que c'est plus difficile de marquer un but, là, ok, ou d'avoir la possession de. Ben, tu sais, théoriquement, Jérémy, t'as 50% de chance de marquer le prochain but, puis t'as 50% de chance de gagner ton combat. Les chances sont les mêmes. Tu sais, je trouve que c'est une arme des faibles. La réplique avec de la violence à de la violence. L'autre chose, écoute, hier là, le match, c'est sûrement le plus écouté de l'année. Okay? Il était assez tôt pour que même les jeunes, les enfants puissent écouter ce match-là. Qu'est-ce que tu dis à ton enfant? Parce qu'il y a eu un accident. La réponse pour régler un accident, c'est que tu vas varger le gars qui est en face de toi. Ouais. C'est
Alexandre, je suis pas d'accord avec toi là-dessus, parce que ça, l'histoire là, du modèle, il faut s'entendre une chose, il faut s'entendre sur une chose, c'est que la Ligue nationale de hockey, malheureusement, là, la Ligue au courant des dernières semaines nous a prouvé hors de tout doute qu'ils sont bien contents quand ça brasse, quand il y a de la bagarre. Oui. Fait que donc, il faudrait à un moment donné que la Ligue prenne de vraies décisions, puis une façon de penser qui éclaire tout le monde et qui dirige tout le monde dans la bonne direction, parce que présentement, c'est le free-for-all, on peut faire ce qu'on veut, on arrive dans une série, tu peux donner des doubles échecs à qui mieux, moi, c'est permis.
C'est ça que j'ai expliqué à mon fils. Moi, ce que j'ai expliqué, c'est que le hockey de la saison régulière a évolué. Le hockey des séries, on est encore très près de ce qu'on était il y a 20 ans. Tu peux faire pas mal n'importe quoi, puis il se passera pas grand-chose. Maintenant, Michael, si vraiment on doit se priver de John Tavares pour le reste de la série, puis c'est fort probable, à quel point ça impacte négativement les Maple Leafs?
Ben, ça serait une grosse perte, c'est sûr. Ben, je pense que ça va être une grosse perte parce que moi, j'ai peu d'espoir, j'ai peu d'attente de le voir revenir. Écoute, c'est une blessure très sérieuse qu'il a subie hier soir. Puis, tu sais, moi, j'ai été déçu. La réponse en termes de hockey, on parle, bon, de la réponse en termes de au bout du point, là. Mm-hmm. Mais la réponse hockey des Leafs hier soir, c'était décevant, là. Moi, j'ai trouvé, tu sais, je me suis dit peut-être que ça va amener de l'émotion. Tu sais, sur le coup, je me suis dit, et les gars sont sous le choc. Tu sais, c'est une réponse tout à fait humaine, c'est une réaction tout à fait humaine, on peut comprendre. Mais en deuxième période, oui, ils sont revenus plus en force, mais tu sais, c'était pas une équipe qui était déchaînée, qui était en mode vengeance de leurs coéquipiers, pas du tout. Moi, j'ai été déçu du match des Leafs hier soir. On doit donner ça aux Canadiens. Le Canadien a joué un super bon match contre Toronto, mais c'est sûr que ça va être une grosse perte s'il est pas en mesure de revenir dans la série. Et il y a des gars qui vont devoir en donner davantage. Tu sais, hier soir, là, il y a eu on parlait des passagers chez le Canadien dans les dernières semaines. Hier, il y en a eu chez les Leafs. Puis, ils vont devoir être meilleurs. Sans quoi, ils vont se retrouver dans le trouble rapidement. Tu sais, on est en série, puis c'est là que ça compte. Et Price, s'il se met à jouer du gros hockey comme il l'a fait hier soir, ben ça pourrait être plus court que les Leafs pensaient.
Moi, je veux juste ajouter quelque chose là-dessus. Moi, j'ai regardé les Leafs de Toronto hier, puis Michael, je suis d'accord avec toi à 100%. J'étais déçu de la performance des Leafs. J'ai l'impression que c'était un autre match de saison régulière où, encore une fois, Austin Matthews était à la chasse de marquer un autre but, avoir un autre point. J'espère que la blessure de John Tavares va marquer le réveil de cette formation-là pour comprendre l'importance de jouer collectivement. Parce que là, il va te manquer un joueur important. Les autres devront prendre leur place. Moi, je suis pas inquiet. Je pense que cette formation-là a assez de profondeur pour... Et là, faut oublier Joe Thornton. Là, c'est pas Joe Thornton qui va être la solution pour remplacer Tavares. Mais clairement, j'espère que ça va marquer...
Ça va être Galchenyuk.
Non, mais j'espère que ça va marquer le réveil de ce club-là qui, hier, était dans le marshmallow. J'ai vu une chose, moi, qui m'agace. J'ai vu Austin Matthews quand Ben Sherratt a pris une pénalité là-dessus. Sherratt a brassé Matthews parce que Matthews avait donné une mise en échec peu douteuse à Sherratt. Et là, Matthews, avec son grand sourire et sa petite moustache, faisait le fanfaron en disant, va, t'as pris un 2 minutes. Mais les gars sont pas capables de marquer un avantage numérique. Tu sais, puis ils ont de la misère depuis, ça fait plusieurs semaines que c'est très, très problématique, l'avantage numérique. Fait que donc, au lieu de faire le fin finot, mettez-vous à jouer au hockey. Et là, je vous le dis, là, d'après moi, si c'est un club qui est aussi bon que l'ensemble de la planète hockey l'a vu, le prochain match samedi, là, je vous le dis, les Leafs vont être tout feu, tout flamme. Si c'est pas ça, ben c'est un club de faux-nés. Et honnêtement, il y a quelque chose qui se passe de tout croche dans cette organisation-là.
Bon, Alex, hier, Josh Anderson, je sais pas s'il avait été piqué par le fait qu'on l'avait placé sur le quatrième trio avec les vétérans, mais écoute, moi, j'ai jamais douté que ce gars-là, de la façon dont il a joué cette année, même quand il était dans ses moments les plus difficiles, disons vers la fin, qui sortirait fort en séries éliminatoires. Et hier, il nous a montré que c'est un joueur des séries éliminatoires. Il a vraiment donné l'exemple. Il s'est donné plusieurs chances de marquer. Il a marqué un très beau but.
Il y a eu deux autres chances de marquer faciles.
Oui, absolument, absolument. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de son jeu?
Ben non, mais c'était vraiment encourageant parce que moi, contrairement à toi, moi, je commençais à avoir des petits doutes sur Josh Anderson. Là. Je trouvais que sa fin de la saison, honnêtement, c'était vraiment très peinant. Mais écoute, je pense qu'il a fini la saison avec juste un point de plus que Jonathan Drouin, puis il a joué pas mal plus que Jonathan Drouin, là, tu sais. Puis c'est un gars qui avait aussi eu beaucoup de difficultés avec les Blue Jackets là, dans les séries en 2018-2019. Il avait fini moins 5 en 10 matchs. On savait pas s'il jouait blessé ou pas. Puis encore là, cette année, écoute, il était combien de matchs sans marquer? En haut de 15, 11, en tout cas, consécutifs.
11 ou 11 sans
écoute, il se passait
points.
Juste plus rien dans la fin de la saison. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, à la fin, là, vraiment, je doutais de lui. Je pense qu'il a beaucoup bénéficié, surtout hier, d'Eric Staal, qui lui a vraiment relevé son niveau de jeu. Moi, j'étais franchement impressionné. De ce que j'ai vu de Staal, deux belles longues passes, là. Tu sais, une diagonale puis une passe de deux zones, là, qui était franchement magnifique de la part de Staal. Et il en a profité, puis il a pu utiliser sa vitesse, là, pour contourner les défenseurs des mains pour lui. C'est sûr que si Josh Anderson peut fournir ce qu'en anglais, on dit du secondary scoring. Fait que, comment on dit ça? Du marquage d'appoint. En tout cas, je sais pas ce qu'est le terme français pour ça. Mais s'il peut un petit peu décharger les deux premiers trios de l'apport offensif puis lui-même contribuer, c'est un gros atout, là, quand même, pour le Canadien. Le Canadien va avoir besoin de l'apport de ce trio-là offensivement pour être capable de battre les Leafs.
Bon, en tout cas, pour moi, ça a été le meilleur attaquant du Canadien hier.
Mais l'opposition des trios était favorable à Josh Anderson.
T'sais, oui, absolument. T'as raison.
On s'en était parlé, là, parce que là, Staal, Perry, Anderson affrontaient Spezza, Thornton, Simmons. Et clairement, là, Josh Anderson avait l'air d'un gars de Ligue nationale dans une ligue de garage.
Ben, c'est sûr. C'est le plus jeune. Écoute, des six, là, de
as-tu
loin.
Vu comment il était capable de percer les défenseurs? À un moment donné, Zach Bogosian, qui faisait un retour, lui, là, il a rien compris de ce qui se passait. Fling-flang, les mains du dimanche de Josh Anderson pour arriver, malheureusement, pas marqué sur la séquence. Mais clairement, l'opposition des trios, puis souvenez-vous, on s'en était parlé, ça, c'est la clé chez les Canadiens, qui tu mets contre qui, tu sais. Et là, d'autant plus qu'on est à Toronto, on n'a pas de dernier changement. Ouais. Faut que tout le monde soit allumé, là.
Ouais. Non, mais ça a vraiment profité à Josh Anderson. Maintenant, faut parler du but de Paul Byron, parce que, écoute, j'essaie, là, dans ma mémoire, là, de penser à des buts plus mémorables, là. Mais premièrement, c'est un but pour la victoire. Deuxièmement, ça s'adonne que c'est en désavantage numérique, comme faisait Byron jusqu'à il y a deux ans, de façon assez régulière. Écoute, on l'a accroché, il s'est retrouvé à genoux, il a quand même trouvé le moyen de marquer ce but-là. C'est un des très, très, très beaux buts gagnants du Canadien en séries éliminatoires depuis plusieurs années. Il y avait eu... Piqué, à un moment donné, était sorti du banc des pénalités, je crois, contre les Browns, marquait un beau but.
Oui,
sauf que c'était pas un but pour la victoire.
Ouais, je pense que c'est le but gagnant du septième match, non?
Je pense pas.
Ben, il y a le but de Desjardins, le troisième en prolongation, ça, écoute.
Desjardins, Claude Lemieux, contre les Whalers d'Hartford.
Ouais, clairement.
Mais où est-ce que vous placez ce but-là? Jusqu'à quel point ce but-là vous a fait triper? Moi, c'est beau.
L'enjeu
pour
était
ça.
Quand même
moi,
moins. Je trouve que l'enjeu était quand même moins grand hier. T'sais, c'était quand même un premier match comparé au septième match de Lemieux, par exemple. Mais c'est clair que le Canadien ne nous a pas habitué à tant de grandes victoires là, dans les séries depuis 5 ans. Là. Fait que c'était clairement un moment de réjouissance. En fait, je trouvais que. Ça a mis le hockey un petit peu plus à l'avant, alors que jusqu'à ce moment-là, sérieusement, on avait encore un petit peu le geste de Tavares. On avait un peu le cœur dans l'eau à cause de ce qui est arrivé. Ça a un petit peu remis quand même le hockey à l'avant. C'était quand même le fun que le match prenne fin, je te dirais, ou à peu près, là, t'sais, sur un but spectaculaire qui nous montre pourquoi, en fait, le hockey, c'est le plus beau sport au monde.
Puis, Michael, Paul Byron, cette année, a pas eu une saison facile. Placé au ballottage à plusieurs reprises. Mais on le sait que c'est un bon joueur de hockey, Paul Byron. En plus, ceux qui l'ont côtoyé dans les dernières années savent que c'est tellement un bon gars en plus. On pouvait pas être plus heureux pour un gars comme Paul Byron, là.
Ouais, puis c'est un compétiteur et là on est en séries éliminatoires puis il marque un gros but comme ça. Tu sais, ça me fait penser et ça se pourrait qu'on se souvienne de ce but-là assez longtemps. Tu sais, dans le sens que si le Canadien est en mesure de causer la surprise contre Toronto, on va associer la victoire du Canadien au premier match. J'en suis à peu près certain parce que tu sais, c'était pas un match comme les autres avec ce qui est arrivé en plus en début de rencontre. Tu sais, on n'a pas oublié le but de Kovalev contre Boston, plus de casse là.
Plus de casse, ouais.
Pourtant, il avait perdu ce match-là. C'était le seul but du Canadien, mais on se souvient encore de ce but-là. Et c'est ce genre de performance-là, d'élan du cœur, parce que c'est ça, Paul Byron. T'sais, c'est un gars qui connaît son succès grâce au travail. S'il travaille pas sur ce jeu-là, il marque jamais. Là. Et il était capable d'aller chercher ce gros but-là, dans une grosse victoire pour le Canadien.
Maxime Paquette nous mentionne que c'est en 2014 le but de Piqué contre les Bruins en deuxième période de prolongation.
Moi, voilà. le but, c'est un but spectaculaire, évidemment. Puis la photo qui tourne là, sur les réseaux sociaux,
c'est magique. Là.
C'est sublime de voir ça. Mais ce que je vais retenir du match numéro 1, et selon moi, ce qui va marquer le Canadien, c'est le fait d'avoir connu une saison tellement tout croche, avec un gardien de but qui a mis le doute dans la tête de tout le monde, Carey Price, et de voir cette formation-là revenir avec les bas de travail, revenir au pic et à l'appel, de travailler pendant 60 minutes, malgré que la deuxième n'a pas été nécessairement facile, que ça soit pas juste une histoire de joueurs vedettes, parce que c'est le troisième et le quatrième trio, selon moi, qui ont donné la victoire aux Canadiens de Montréal, y compris Carey Price. Donc, de voir tout ça, pour moi, je pense que le but d'Anderson et le but de Byron viennent juste confirmer ce que le Canadien peut apporter. Maintenant, c'est à eux de continuer à le prouver. Il n'y a rien de gagné, là.
Non.
Je vous le dis, il n'y a rien de gagné.
Non, il n'y a rien de gagné.
Mais au moins, on a vu un club qui est capable de compétitionner. C'est ce qu'on a vu hier.
Oui, c'est ça. Puis c'est ce que tu demandes. Là, maintenant, ensuite de ça, est-ce que tu vas être capable d'obtenir le même résultat encore trois fois pour éliminer Toronto? C'est loin d'être fait. Maintenant, tu as parlé de Carey Price. Il faut parler de Carey Price parce que.
Tu étais bon, Philo, Carey?
Il était extraordinaire.
Ah, attendez. Hey, wow. Est-ce que vous avez enregistré ça, ce qu'il a dit?
On a quote. Non, mais moi, je dis toujours la vérité. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Oh oui. Hier, Carey Price a été extraordinaire. Puis, sais-tu quoi? C'est la première fois de l'année qu'il a été aussi bon. C'est la première fois de l'année qu'il a fait la différence dans une game. Ça donne que c'est la première game des séries. Fait qu'on est très, très, très contents. Mais il a été fumant. Il a donné confiance à son équipe. On a vu des choses. Hier, là, je regardais le match avec mon fils. Puis, on se regardait. On était comme, ben voyons. C'était où, ça, toute l'année? Ben voyons. Ça se peut pas. Et ça va m'amener à mon prochain sujet, mais la capacité de Price de mettre la machine à on, la switch à on, moi j'en doutais véritablement, puis on vient juste de le dire, c'est juste une game, mais c'est bien parti. Alexandre, là-dessus.
Mais il est capable, là, Jérémy. Tu dis, c'est sa première game comme ça. Il y a eu tout un mois de mars. Je pense qu'on oublie un petit peu là, ce qui est arrivé. Il a quand même fini le mois de mars avec 93% d'arrêt. Là. C'était dans le top de la ligue. T'sais, il y a eu 4 games de suite en donnant juste un but au début mars. Là. C'est un joueur qui est capable de relever son niveau de jeu. T'sais, on oublie. Hein. En fait, c'est drôle parce que Carey Price, je trouve qu'on retient beaucoup les mauvais matchs. On retient de moins en moins les bons matchs. T'sais. Et on dit toujours,
Carey, c'est pas un gardien d'essai. Il n'y a pas eu un bon match cette année, là. Comme ils disent en anglais, few and far between.
Il y a eu des bonnes séquences. Non, mais attends, il y a eu des bonnes séquences, pour vrai, là. Au mois de mars, il y a vraiment eu un bon mars, là, tu sais. Et quand on regarde, en fait, on dit toujours, c'est pas un gardien des séries, puis c'est vrai qu'il n'a pas amené le Canadien à la finale de la Coupe. Mais des fois que c'était pas lui qui était responsable, tu sais. Dans les deux dernières fois qu'il est allé dans les séries, les deux dernières années qu'il est allé dans les séries, donc en 2020 puis 2017, 93% de pourcentage d'arrêt et en bas de 2 de moyenne de buts par match. Là, ce sont des statistiques élites. Là, c'est genre des statistiques qui, maintenues sur une année, te donnent le trophée Vézina ou peuvent te donner le Conn Smythe si tu maintiens tout le long d'une série. Mais tu sais, le problème, en fait, c'est que dans les séries, traditionnellement, le Canadien a beaucoup de difficultés à compter des buts. Tu sais, hier encore, un match de 2-1. Là, il y en a souvent là, des matchs de 2-1 dans les séries quand Carey Price est devant le filet. Moi, ça m'a encouragé parce que, honnêtement, j'avais vraiment beaucoup de doutes avant... la partie d'hier sur la capacité de Price à vraiment offrir une grande performance en ces derniers matchs avant qu'il ait quitté, ça avait été difficile. Puis peut-être qu'il vit aussi d'autres types de problèmes. Le Journal de Montréal le laissait entendre là, que peut-être que Price vivait des problèmes aussi à la maison. Ça pouvait être difficile. Peut-être que c'est le cas. Je le sais pas. Je suis pas dans sa famille, mais c'est possible. Puis ça peut expliquer qu'il y a eu une certaine cassure là, à la fin mars là, dans sa saison. J'étais encouragé parce que de ce que j'avais vu dans le match contre les Rockets, je trouvais qu'encore une fois, comme on l'avait vu un petit peu plus tôt cette saison, il se retournait souvent de bord pour voir est-ce que j'ai fait l'arrêt ou j'ai pas fait l'arrêt. Il inspirait pas confiance. Hier, je trouvais que ça a commencé un petit peu shaky quand même, là, le début de la partie. Souvent, il regardait encore en arrêt, mais plus le match progressait, meilleur il était. Ça a été le meilleur joueur du Canadien hier, honnêtement, parce que les Leafs ont vraiment eu beaucoup de belles chances de marquer là, directement dans la
cave. Michael, là-dessus, sur Price?
Bien, le trait commun avec l'année passée, c'est qu'il y a eu une période de repos, entre guillemets, juste avant les séries. Alors, moi, je pense que le repos, le repos, en tout cas, tel que tel, mais être loin de l'aréna plusieurs jours l'a aidé. Parce que, dans les semaines qui ont précédé cette pause-là, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. Mais, tu sais, c'est un gars qui sait faire la différence, puis il est rassurant. On en revient à ça, mais l'effet de ses performances, de ses arrêts, ça semble donner une confiance aux joueurs devant lui. Puis ça, ben pour la suite des choses, c'est vraiment positif. Là.
Max dit il y a eu 3 poteaux. Mais moi, je dis toujours, si tu frappes le poteau, c'est parce que tes angles étaient bien couverts.
Ah oui, c'est pas considéré comme étant un lancé au filet. C'est sur le poteau, c'est comme
vrai,
ça.
C'est vrai.
Mais moi, j'aimerais ajouter un point, et je suis convaincu que vous serez d'accord avec moi, mais... Dans le match d'hier, ce que j'ai beaucoup apprécié, un, il était plate. Et quand il est plate, il est efficace. La rondelle arrivait sur lui. Poup, pogne ça comme un joueur de réco. Merci, bonsoir, le joueur est là. Ça, c'est un. Puis deuxièmement, écoutez, durant la saison, le Canadien s'est fait presser dans son territoire. On était incapable de sortir du territoire parce que souvent, Jake Allen, c'est un bon gardien de but, mais n'a pas cette capacité-là à bien passer la rondelle. Hier, Price, je pense, une fois a eu de la difficulté. Une fois a raté la rondelle en essayant de faire une passe, et l'autre fois, il a peut-être raté un peu sa passe, mais sinon, écoute, il aide les défenseurs. La rondelle sort tellement plus facilement. Fait que, tu sais, si c'était ton gardien de but qui entreprend déjà la sortie de zone, ça t'aide, t'es capté, puis Dieu sait que les défenseurs du Canadien, c'est pas les plus rapides au monde. Fait que donc, ça l'aide tout le monde, puis on est capable de sortir la rondelle comme il faut et d'éviter d'être pris, d'être embourbé dans son territoire.
Bon, là, je vais faire mon conspirationniste de hockey à 2 cents. Là. Puisqu'on est là-dedans, là, mon prochain sujet, là, si vous l'avez devant vous, était-ce une ruse? Et si oui, c'était diabolique. Je vous explique.
C'est quoi?
Bon, vous savez qu'au début de la saison, on a dit il y a beaucoup de matchs puis tout ça, puis les matchs sont collés, puis à un moment donné, il va faire des rotations de joueurs. Il n'y en a pas eu de rotation. On a utilisé pas mal toutes les mêmes puis tout ça. Là, à un moment donné, vers la fin de la saison, il restait à peu près 3 semaines, on s'est dit, ouais, 98% des chances de faire les séries puis tout ça, puis ça se peut-tu que le Canadien, puis je dis pas que les gars étaient pas bien blessés, mais ça donne qu'ils ont tous été assez blessés, juste assez, pour en revenir au début des séries. Puis ça se peut-tu qu'on se soit dit à l'interne, hey, les plus importants, là, les gros morceaux, là, la fin de la saison, là, on est à 98%. Toi, t'as-tu des petits bobos, gars? Viens t'asseoir une couple de semaines. Toi, viens t'asseoir une couple de semaines. On va le faire à croire en mettant des vidéos qu'on est blessé à la main, puis que le goaler, il est frustré, puis tout ça. Puis l'autre, bah, ils vont se dire, hey, ils sont morts, oublie ça, il se passe à rien. Est-ce que c'était une ruse de cette fin de saison de dire, les meilleurs, les gars, là, vous allez prendre la fin de la saison off, vous allez vous préparer, puis vous allez être frais. Puis si c'est ça, puis ça marche, c'est diabolique, c'est incroyable.
T'as trouvé ça où, cette idée-là?
Ben, je me couche ce soir, puis...
C'est quoi, cette affaire-là?
Avant de dormir, qu'est-ce que tu fais avant de dormir, Jérémy?
Mange pas avant de dormir, c'est pas bon, ça te donne des mauvaises idées.
Des sandwichs à la Nutella, c'est ça que ça donne.
Non, mais attends, juste à dire une chose. Si tel était le cas, là, si ta théorie du complot était vraie, d'après moi, on aurait vu Brendan Gallagher être vraiment meilleur que ça dans le match numéro 1.
Ben, Gallagher, je pense qu'on peut l'exclure parce que là, lui, il avait vraiment une main cassée.
Chez Weber, là, je peux te garantir une chose, son lancer, c'est pas encore le lancer d'un gars qui s'appelle Chez Weber.
Ça en est servi hier quand même,
oui,
par contre.
Oui, 3 fois, mais 3 fois, c'est un lancer, une fois dans le plastron, 2 fois la mitaine. C'était pas le plomb qu'on connaît qui était, je sais pas, moi, je vais aller en centimètres, là, 15 centimètres du sol, 20 centimètres, souvent côté bâton en bas à droite. C'était pas ça du tout, là. Ou complètement mitaine en haut, mais un laser, c'était pas ça du tout. Fait que donc, à partir de là, je pense que les gars étaient vraiment blessés. Est-ce qu'on a profité de l'occasion parce qu'on avait un certain coussin d'avance pour leur donner du repos? Je pense que oui également. Mais quand je regarde Gallagher, je pense que lui aurait aimé revenir avant et être en mesure justement de reprendre la compétition
non,
parce qu'il y a
que
ça dure. Là.
Gallagher, on peut l'exclure de mon hypothèse à 2 cents.
Hey, je vais entendre les autres là-dessus, que vous en pensez.
Non, mais je serais curieux de savoir ce que vous en pensez.
Non, mais moi je comprends ça pas une seconde. Là. Mais c'est sûr qu'on s'est pas précipité pour faire jouer des gars qui peut-être, tu sais, auraient pu jouer dans des circonstances de série puis tout ça. Ça c'est clair. Ça c'est, on est tous d'accord avec ça. Mais tu sais qu'on est vraiment pris l'initiative de faire ça. Tu sais, rentrer avec un très mauvais momentum sur une séquence de défaites en série, c'est pas bon. Là, le Canadien, tu sais, il gagnait tout à aller chercher une certaine confiance, même si oui, on rêvait d'une certaine rotation, puis entrer frais et dispo en série. T'sais, ils sont quand même rentrés sur un très mauvais, une mauvaise séquence. Puis heureusement, peut-être la semaine de pause d'une semaine leur a permis de refocuser, t'sais, de s'entraîner, puis de travailler, puis d'essayer de guérir les petits bobos. Mais moi, je crois pas qu'on puisse aller plus que ça.
Alexandre, est-ce qu'on a tiré la sauce avec les blessures pour s'assurer que ces gars-là soient frais et dispo pour les séries?
Ben, je pense que ça ferait un bon scénario pour une nouvelle saison de l'ancien compte. Je vais proposer à Réjean. Mais non, sérieusement, Jérémy, non. Là, je pense que si le Canadien pouvait effacer le dernier mois de son histoire, il le ferait. Tu sais, souvenez-vous, écoute, il y en a eu là, des chroniques puis des fans là, qui ont chialé sur les tribunes. Puis ils ont passé un très mauvais mois, là, sérieusement. Puis je pense que ça a beaucoup affecté la morale de l'équipe. Tu sais, il y a plein de signes qui mentent pas. Dans le match contre le Rocket de Laval, où on a testé Price et Gallagher, je pense que si on avait voulu les cacher, on les aurait pas fait jouer contre le club École des Leafs, là, clairement. Deux, tu sais, on a vu le Gallagher qui avait raté un filet désert à un moment donné dans le match, puis qui est allé fracasser son bâton dans un match de la Ligue américaine. Tu sais, ça te montre quand même que le niveau de frustration est très élevé. Price encore à l'entraînement cette semaine, qui aussi a cassé un bâton. Price qui voulait pas sortir du match contre le Rocket après avoir donné deux buts sur genre 9 tirs parce qu'il voulait quand même avoir une meilleure position sur plus longtemps pour voir comment il allait. T'sais, pour moi, c'est des signes.
C'était parce qu'il s'en allait en désavantage numérique puis il voulait pas que Kaden Primo embarque dans cette situation-là. C'est pour ça qu'il a demandé à rester là.
Ouais.
OK, mais il est quand même resté toute la période, là, sauf erreur. Là,
il restait trois minutes.
Ce qui est arrivé, là, c'est que les Marlies ont eu pratiquement aucun tir dans la première moitié de la deuxième période.
La deuxième, c'est ça.
C'est ça, il restait 6 minutes, ils sont arrivés en avantage numérique. Là, il a dit, garde, on fera pas rentrer Kaden Primo quand tu commences en désavantage.
Ouais, je vais finir la période.
Ça a fini, il restait trois minutes. Il dit, garde, on va finir, puis tu viendras en troisième.
Mais en tout cas,
je dis, si tu veux cacher tes gars, il n'aurait jamais pris le risque d'envoyer Gallagher jouer contre les gars du club école des Leafs, je veux dire, avec les risques de blessures et tout ça qui viennent avec.
La réponse est non. Puis tu vas aller à Laval, puis les 5 premiers tirs, laisse donc passer une coupe de buts.
Non, c'est ridicule.
Bon, voilà. En parlant de ridicule, ils ont eu une mauvaise nouvelle, les Maple Leafs, hier. Je ne sais pas si vous avez écouté le point de presse de Doug Ford.
Non.
Mais il y a...
Tabaret s'est blessé, non?
Non, ben il a étalé son plan de déconfinement pour l'Ontario. Ah oui. Et les spectateurs à l'intérieur... Du côté de l'Ontario, c'est pas avant, au plus tôt le mois d'août.
Ah.
Fait qu'il y aura, même s'ils se rendent en finale de la Coupe Stanley, là, ils n'auront pas de partisans dans le building, eux autres. Fait que c'est.
Dommage.
Non, mais tu sais, imagine, ils se rendent à la finale de la Coupe Stanley, puis pas de partisans.
Mais moi, j'en ai une théorie à Saint-Saëns, là.
Ah ouais, donc?
J'en ai une théorie à Saint-Saëns pour relancer celle de Philo. Moi, je me suis dit une chose, j'ai dit. Souvenez-vous, l'an passé, le Canadien a connu du succès en série de fin de saison contre les Penguins de Pittsburgh et les Flyers de Philadelphie, malgré la défaite contre les Flyers, il y a eu des blessés puis tout ça. Mais ils ont connu du succès, ils étaient où? Ils étaient à Toronto. À Toronto, à cette place-là où les Canadiens jouent présentement, dans un amphithéâtre, le même amphithéâtre avec le même... Peut-être pas les mêmes mesures sanitaires, mais sensiblement, tu sais, c'était là la bulle. Fait que je me suis dit, peut-être qu'ils sont quand même confortables de compétitionner là-bas. Maintenant, faut voir comment ils seront confortables pour être à la maison. S'il y a des spectateurs au match numéro 6, si on se rend jusqu'au match numéro 6, ça va amener une dimension qui est complètement différente. Ça va amener au moins, même s'il y en a juste 2500, ça va faire différent du clac, 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 et Mme Bibeau qui a les bras dans les airs. Ça va faire complètement différent.
On la voit souvent à la TV.
Elle est en feu.
Mais en tout cas, je trouve ça triste un peu pour les Maple Leafs qui... si jamais ils se rendent à la finale.
Ça se dit, Jérémy, la situation de l'Ontario a rien à voir avec celle du Québec présentement.
C'est ça.
Il y a 5 fois plus de cas, je pense, par jour présentement. Puis, tu sais, juste pour rebondir sur la foule, si en effet il y a un match, c'est sûr que ça va avoir un impact. Puis, j'avais écrit là-dessus l'année dernière quand c'est arrivé. Tu sais, il y a eu des études qui ont été faites sur l'impact d'une foule. Puis, le plus grand impact, en fait, il est sur les arbitres. Parce que quand il y a une foule, en fait, ça intimide les arbitres, puis les arbitres ont souvent tendance à favoriser l'équipe locale dans ces situations-là, tu sais, de coller une punition ou deux de moins par match, puis ça peut vraiment avoir un impact là, non négligeable sur une partie. Fait que c'est sûr qu'il va avoir un impact là, s'il y a 2500 spectateurs au Centre Bell.
On fait une petite pause et on va aller voir ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale dans quelques instants. Voilà, de retour maintenant pour les sujets ailleurs dans la Ligue nationale. Je sais que le match entre les Panthers et le Lightning avait lieu en même temps que celui du Canadien et des Maple Leafs, mais je sais pas si vous suivez cette série-là aussi, mais elle est extraordinaire. Quelle série Lightning-Panthers et surtout le match d'hier. Quand le Lightning a marqué avec 1 minute 43, je crois, à faire en deuxième période pour prendre l'avance 5-3, s'en allant dans la troisième période, et en plus, ils sont en arrière 0-2 dans cette série. Je pensais que les Panthers allaient baisser les bras. Parce que, écoute, ils essayent tout sur la patinoire. Ils sont partout, ils sont fougueux, ils sont énergiques. Ça marchait pas. Et là, d'être capable de revenir de l'arrière, marquer 2 buts en troisième, égaler la marque, puis aller gagner en prolongation. Là, on se retrouve avec une série, c'est 2-1. Écoute, c'est extraordinaire. C'est juste plate qu'on n'ait pas vu cette rivalité-là en série plus tôt.
Moi j'avais les deux postes de télévision ouverts. J'avais l'autre match, celui entre les Panthers et le Lightning de Tampa Bay, sous les yeux en même temps. Puis moi, ce que je me dis à travers tout ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui va laisser de l'énergie sur la glace dans cette série-là. Parce que c'est incroyable. Là. Hier, c'était un match extrêmement défensif. Ça finit 6-5 en prolongation. Fait que c'était du hockey dans la rue. On frappait, il y a des buts, il y a beaucoup de revirements.
Les gardiens...
Exactement. Vasilievski a été douteux. Gardien de but des Panthers aussi. Fait que donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que là, on est à fond, Léon. Le dernier qui marque, c'est lui qui va gagner.
Ouais.
Sauf que moi, je pense que tu laisses des plumes dans ce genre de circonstances-là. J'espère qu'on va resserrer un peu le jeu. Je sais que Philo, t'aimes ça, du jeu ouvert comme ça.
Écoute.
Mais tu peux pas passer une série comme ça. Là.
Non, non.
Tu sais, c'est impossible. Tu n'as pas assez d'énergie pour faire ça.
Tu es sur le bout de ton siège toute la soirée.
Ah, c'est le fun. Ben
en
oui.
regardant ça. Ouais. Alex, je sais pas ce que tu en penses si tu regardes un
ben
peu.
Moi, je suis. Ben, j'ai vu les deux premiers matchs. J'ai pas vu celui d'hier parce que j'avais une chronique à écrire pendant le match.
Ouais.
Mais je trouve que je suis vraiment content en fait de voir les Panthers finalement connaître du succès. C'est vraiment. C'est une organisation, c'est très, très difficile à suivre pour ses partisans. Ça me fait un petit peu penser
c'est
à l'impact là, au soccer à Montréal où
ils
gagnent pas souvent. T'as rarement, c'est ça, des belles séquences. Là. Et c'est une équipe qui est quand même faite un petit peu une courte pointe. Hein, des joueurs qui viennent un petit peu partout, des joueurs pris au balotage, c'est Carter Verhaeghe, des gars pris sur des transactions, Stan Bennett qui est venu contre un choix et tout. Et la mayonnaise apprend. C'est vraiment impressionnant, je trouve, quand même, ce qu'ils sont capables de faire. Puis de tenir tête, en fait, au Lightning, qui est quand même une super puissance. Oui, ils ont terminé en avant du Lightning pendant la saison, mais ils ont joué sans Kucherov toute l'année aussi. C'est sûr que c'est un élément important. Je suis content de voir les Panthers tenir tête. Je trouve vraiment que c'est intéressant parce que jamais on aurait pensé l'année dernière que ces deux clubs-là se retrouveraient à un moment donné quasiment année à année là, sur une série éliminatoire. Fait que, moi, je trouve que c'est très bon en fait pour la Ligue nationale que finalement une équipe aussi faible que les Panthers commencent à connaître des succès.
Ouais, puis dans un marché où le hockey est pas très populaire, mais ça demeure un grand marché, celui de Miami. Puis si cette équipe-là pouvait devenir une des bonnes équipes de la Ligue nationale, mais ce serait juste bon pour la Ligue. Mais Michael,
c'est un gros marché avec plein d'équipes qui gagnent jamais en passant.
C'est vrai.
Les Marlins puis les Dolphins, c'est pas très bon non plus.
Non, c'est pas très bon non plus. Michael, hier, on a finalement fait rentrer Bobrovsky en troisième période. D'ailleurs, il n'a pas donné de but au Lightning. Puis là, tout le monde se gratte la tête en se disant, mais on comprend pas. T'es allé chercher Bobrovsky, tu l'as signé à gros prix. Le but, c'est ça. Là, t'es là, là. Puis Bobrovsky est sur le banc. Est-ce que la fin de match d'hier peut changer la donne pour ce qui est de la situation des gardiens?
Ben peut-être, parce que on se souvient que dans le premier match, il a perdu le match, ça n'a pas été concluant pour lui, mais des fois, pour les gardiens de but, ça peut arriver, ce genre de déclic-là. J'ai hâte de voir, est-ce que ça peut être comme sa rampe de lancement, je sais pas, mais je me pose certaines questions. Moi, j'ai pas vu le match d'hier non plus, j'ai vu le résumé, puis dans les deux premiers matchs, il y a énormément, ça joue sur les unités spéciales, beaucoup de buts marqués en avantage numérique. tu sais, à quel point ils vont être capables, les Panthers, de vraiment gagner cette guerre-là contre le Lightning. Tu sais, j'en suis pas convaincu. J'ai hâte de voir. Est-ce que Bobrovsky peut venir mélanger un petit peu les cartes avec tout ça? Hier, ça nous a donné, c'est un beau scénario de le voir revenir comme ça, d'aller chercher la victoire. Alors, on va les suivre, c'est certain, mais tu sais, ils vont être capables vraiment de battre le Lightning dans cette série-là?
Ouais, ça va être difficile. Pas sûr. Les Bruins et les Capitals, en tout cas, eux autres sont pas capables de régler des matchs dans les 60 premières minutes. C'est trois fois la prolongation dans les trois premiers matchs de la série.
Dont une double prolongation.
Dont une double prolongation. Et là, dans le match numéro 3, le gardien des Capitals, Samsonov, s'endort littéralement. Je sais pas comment il a fait pour ne pas être plus éveillé sur la séquence. Il laisse la rondelle à son coéquipier derrière le filet, mais il y a de la pression de Smith qui s'en vient. Et c'est comme s'il s'attendait pas.
OK, mais là, attends. OK, attends des minutes. Il y a plein d'affaires à dire là-dedans.
En tout cas, il se fait ramasser pas mal.
Ah non, oui. Il s'est fait ramasser par Ovechkin, le capitaine de l'équipe, qui l'engueule sur la place publique.
Je suis pas sûr qu'il parlait à son gardien.
Ben là, tout le monde disait que c'était à Samsonov qui parlait. Fait que donc,
on n'est pas sûr. Ça a l'air qu'il y a eu un mauvais changement au banc, qu'il était frustré par rapport à ça.
Mais si c'était à lui, là, s'il faisait des reproches de même devant tout le monde, honnêtement, c'est ordinaire. Ce que je veux dire, premièrement, là, l'histoire là, du gardien de but qui dort sa switch quand il laisse la rondelle comme ça, souvent, puis ça, je vous le dis, là, ça m'est arrivé. Moi, j'ai jamais joué dans la Ligue nationale, je le répète, là, juste du hockey junior. Là. Mais ça m'est arrivé en tant que défenseur. Si toi, en tant que défenseur, t'hésites, t'envoies un mauvais signal à ton gardien de but, le gardien de but hésite aussi, bang, ça arrive. Tu sais, j'y vas-tu, j'y vas pas. On problème de communication entre le gardien puis le défenseur, ça, c'est un. Deuxièmement, il faut, tu sais, ce gars, Samsonov, honnêtement, là, tu sais, il a une drôle de saison. Avec Kuznetsov, avec tout ça, tu sais, à un moment donné, là, il va falloir que ça se concentre sur garder les buts, fais ta job, fais-la bien, puis pas plus, pas moins. Mais là, disons que là-dessus, il a pas bien paru.
Non.
Si encore là, si Ovechkin, c'était pas à lui qui adressait les reproches, ça passe, correct, mais tu sais, Ovechkin, t'as pas d'affaire à commencer à varloper tout le monde comme ça sur la place publique, là. Ben, pas sur la place publique, mais pendant le match, quand les caméras sont sur toi. Garde ton petit gêne, va-t'en dans le vestiaire, puis prouve. Qu'est-ce que tu veux dire en revenant dans le prochain match?
Il a fracassé son bâton sur la bande. Il était vraiment pas content de la situation, puis on le comprend. Là, il tombe 2-1 en arrière dans cette série-là. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur cette série Capitals Bruins, les gars. Sinon, on passe à la prochaine, comme vous voulez.
Je sais pas s'il parlait à Schultz, mais il connaît pas une grande série, hein. Donc, il était là sur l'autre but gagnant dans la défaite. Donc, mais c'est sûr que, tu sais, d'un vétéran comme Ovechkin, j'aime voir du caractère, mais c'est sûr que, bon, là, c'est un peu embarrassant quand c'est un contre un de tes coéquipiers, puis ça se fait sur la glace après un but décisif, là, mais bon.
Mais s'il y en a un qui danse à la switch, il faut que le capitaine parle.
Oui, dans le vestiaire, pas de même.
Ouais, mais là, tu viens de perdre.
Encore une fois, là, tu es obligé de dire tout de suite. Ben non, Philo,
je pardonne toujours, les gars. C'est le coup de l'émotion.
Ben oui.
Mais tu n'aurais pas sauté dessus, non?
j'aurais cassé mon gris en tête.
Maudit gardien, qu'est-ce que tu fais? Mais je peux comprendre la frustration sur le coup. Tu viens de perdre.
Puis après, tu aurais dit, ah, excuse-moi, tu sais.
Ben,
je suis italien.
C'est pas de ma faute. Il y a deux série où ça s'en va vraiment à sens unique, les gars. L'Avalanche et les Hurricanes sont en avance 2-0. Ont gagné leurs deux premiers matchs sur leur patinoire à eux. L'Avalanche sur les Blues, encore là, les Blues semblent pas vraiment trouver de solution contre l'Avalanche. Je pense que ça va être très, très difficile. Les Hurricanes mènent aussi 2-0 contre les Prédateurs de Nashville. Y a-t-il une de ces deux équipes-là, selon vous, qui a vraiment, tu sais, de très bonnes chances de balayer leur série?
Peut-être plus les Hurricanes.
Ben, moi,
vas-y, Alexandre.
Ouais. Ben moi, je pense que les deux clubs risquent de se ramasser en finale de la Coupe Stanley, honnêtement. C'est dans mes prédictions, c'est un petit peu ce que je vois. Je trouve que c'est vraiment deux équipes super bien balancées, là, vraiment. Surtout l'Avalanche. McKinnon est en feu. Il y a 5 buts déjà en 2 matchs. Là. Depuis le début des séries, c'est comme autant que son erreur que Kenny, je pense, dans toute la saison là, en 2 matchs. Ça aurait été facile. Mais ce que je veux dire? Non, mais je trouve que l'Avalanche, vraiment, je pensais qu'ils étaient pour gagner l'année dernière. Ça n'a pas été le cas. Mais je pense que je vois pas personne, à part peut-être les Hurricanes, les arrêter cette année. Oui, il y a les Golden Knights, mais ils ont aussi, ils peuvent être inégaux un petit peu aussi, les Golden Knights. Ils ont peut-être une confrontation un petit peu plus difficile au premier tour aussi. Mais je vois vraiment l'Avalanche aller jusqu'au bout là, cette année. Là.
Michael, là-dessus?
Ben, un peu comme Alex. L'Avalanche, on dirait que tu sais, ils sont en mission complètement. J'ai hâte de voir. J'ai pas vu de match de la série Caroline-Nashville, mais l'Avalanche, moi, j'ai regardé quelques périodes, puis ils jouent du gros hockey en ce moment. Ça va être très difficile pour les Blues de même aller chercher une victoire.
On va faire une petite pause au retour de ceci, les questions du public. Voilà, de retour maintenant avec les questions du public que j'ai reçues via Twitter, Facebook ou même par courriel. Il y a Angel Barrera qui me demande « Avez-vous des nouvelles fraîches sur Jake Evans? » Est-ce qu'il n'était pas à l'entraînement hein, ce matin, Alexandre, si je me trompe pas, c'est ça?
Non, en fait, c'est un entraînement qui était un petit peu optionnel là, ce matin. Là, c'est pas tout le monde qui s'est entraîné, puis il n'était pas là. Puis Rick Stahl a dit après que Kotkaniemi était pour jouer le prochain match. Donc, on présume que c'est pas lui qui va être retiré de l'alignement, là, Star. Donc, on présume que Evan sera pas là pour la prochaine partie. Mais on n'en sait pas vraiment plus pour
l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la séquence?
Ben, moi, j'ai vu une séquence devant le filet où il reçoit un double échec dans les côtes. Et là, tu le vois vraiment, il retraite vers le vestiaire. Il a l'air d'avoir mal. Il s'en va au vestiaire, mais il revient quelques minutes plus tard. C'est la seule séquence que j'ai vu.
J'ai vu une mise en échec une fois sur le long de la rampe, l'épaule semble être atteindre son visage. Fait que tu sais, on ne sait pas. Et Jake Evans, souvenez-vous, l'an passé dans les séries, est sorti après une superbe passe de Victor Mété et il s'était fait ramasser puis était sorti avec une commotion cérébrale. Fait que je ne sais pas si c'est soit la commotion ou un coup dans les côtes.
Je pense que c'est le coup dans les côtes, mais je ne suis pas certain. As-tu plus d'infos là-dessus, Michael? Comment t'as vu ça, cette blessure à Jake Evans?
Ouais, j'ai pas vu. Moi non plus, autre que ce que vous venez de mentionner. Puis, tu sais, je sentais Dominique Ducharme, l'extrait que j'ai écouté, là. J'ai pas entendu le point de presse au complet, mais j'ai vu l'extrait sur Evans. Tu sais, on sent qu'il ne veut pas dévoiler aucun plan en vue du prochain match. C'est tout à fait normal. Mais, tu sais, peut donner une occasion à Kotkaniemi, je vais être le premier heureux parce que, tu sais, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour le Canadien que de voir Kéké absent en ce moment.
Non, on a vu l'image des jeunes du Canadien sur la passerelle. En train de regarder le match, là, ça va pas de l'air à être très plaisant.
Le Canadien n'exclut pas qu'il soit en poste par ailleurs le samedi. Là. C'est pas impossible non plus que ça arrive. Là.
Mais il a dit du charme après le match d'hier. On pense pas que c'est quelque chose de très grave, mais il sera réévalué au quotidien. Donc, on verra. On n'a pas de nouvelles précises.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose à ce que tu as dit en disant les jeunes qui étaient dans les estrades, ça avait pas de l'air très plaisant? Enlevons Cole Caulfield de l'équation là. Si tu gardes juste Kéké et Romanov là, ben j'espère que c'est pas plaisant. J'espère que eux réalisent que c'est pas là ma place, c'est pas dans les estrades, c'est sur la patinoire et quand je suis là, je dois travailler en conséquence de mériter ma place d'être là. C'est pas gratuit cette histoire-là. C'est pas à cause que t'es un choix repêchage, un choix important. C'est pas à cause que tout le monde pense que tu vas connaître une belle carrière que on doit t'ouvrir la porte et que tu rentres là puis que tu travailles pas trop. Non, 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 t'es obligé. Si tu le fais pas, tu ne joues pas. Fait que donc, j'espère qu'on a compris le message.
Bon, autre question d'Éric Lévesque. Pourquoi le Canadien a toujours l'air aussi nonchalant en avantage numérique? Écoute, c'est une bonne question parce que je me suis posé cette question-là à plusieurs reprises. Moi, c'est quand on est... Écoute, t'as 120 secondes pour mettre le puck dans le net. Là, t'es derrière le filet. Puis là, on attend. À qui je vais faire la passe? C'est-tu à lui ou c'est-tu à l'autre? Attends, je vais prendre encore quelques instants. Bon, parfait, on y va. On arrive à notre ligne bleue. Y a-tu quelqu'un d'autre qui veut avoir le puck? Toi, tu veux l'avoir? OK, je vais te faire une petite passe. Là, on arrive à la ligne bleue adverse. Là, on regarde en arrière. Y a-tu quelqu'un vraiment loin derrière à qui je peux faire une passe pour gaspiller encore 10 autres secondes? Ah oui, y a lui en arrière. Je vais y faire une passe à lui.
Carrie, tu veux-tu avoir la rondelle? Attends, va te l'envoyer.
Je vais te la donner, pas de problème. Écoute, on a 120 secondes pour marquer. On a tout le temps au monde. Écoute, je suis dans mon salon puis je suis comme, ah oui, maudite affaire, rentre dans la zone. Y en a deux qui rentrent avec le puck. Anderson, Toffoli. That's it, that's all. autres. Les autres, on dump le puck, puis on essaie d'aller le chercher. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça
folie, frustrant. Oui, je pense que Tatar rentre avec la rondelle. On sait qu'avant, c'était vraiment Jonathan Drouin qui c'était sa spécialité, rentrer avec la rondelle. Et pourquoi on fait ça, Jérémy? Peut-être juste pour rappeler aux gens, c'est que habituellement, maintenant, le désavantage numérique, ce qu'il va faire, c'est que les Leafs vont s'installer à la ligne bleue, puis on attend. Fait que donc, quand on revient comme ça, c'est qu'on va aller chercher quelqu'un qui est en pleine vitesse, qui a de bonnes mains, puis est capable de rentrer, de percer le mur, et par la suite, on va s'installer.
Mais Toffoli et Anderson, ils rentrent pareil. Il n'y a pas de problème.
Oui, mais ils rentrent...
Ils rentrent sur le bord de la bande, mais
ils rentrent. De façon différente. Hein. On va placer la rondelle, Anderson va patiner, puis Toffoli va déjouer hier. Ça marchait pas trop. Mais j'ai l'impression, pourquoi on est nonchalant comme ça dans l'avantage numérique du Canadien, c'est qu'on n'a aucune confiance. On n'a aucune confiance. Puis par moment, hier, puis je te l'ai dit avant qu'on commence l'enregistrement, je me suis dit, regarde, j'ai l'impression que le Canadien se dit, au moins pendant l'avantage numérique, on peut contrôler la rondelle et les Leafs ne marqueront pas. Je me suis dit, ils contrôlent la rondelle. C'est juste ça, c'est juste ça qu'ils font.
C'est triste à mort.
Non, mais t'es pas capable de rentrer en territoire adverse. C'est ça la situation, tu sais. Fait que on a une problématique, là.
Bon, comment vous voyez ça, l'avantage numérique, les gars? Michael, peut-être, si tu veux commencer là-dessus.
Ben là, ils ont pratiqué ça aujourd'hui, de ce qu'on a pu voir. Puis Kéké est inséré sur ça. Alors, est-ce que ça peut le relancer? Je sais pas. Il va peut-être être un petit peu plus affamé. Moi, j'aimerais ça voir le Canadien plus agressif en avantage numérique, un peu comme vous. Je m'explique mal. Tu sais, le Canadien a tous les atouts. En début de saison, on l'a vu, ça a fonctionné pour le Canadien. Puis après ça, ça s'est estompé. C'est jamais revenu. Puis tu sais, si tu veux faire du chemin dans les séries, tu dois en marquer des buts en avantage numérique. Donc, est-ce que faut changer les effectifs? Faut-tu y aller? Je sais pas. Là, j'ai pas de solution magique parce que...
Si t'en avais, faut t'appeler Dominique Ducharme absolument.
Ou je coacherais dans la Ligue nationale. Mais c'est ça. C'est ça qui... Il faut, à un moment donné, si les mêmes personnes, ça donne les mêmes résultats, ben faut que tu changes le personnel pour que ça change les résultats.
Alex?
Ben, je trouve qu'il manque un petit peu de vitesse, en fait, sur l'avantage numérique, de la vitesse de transition de rondelle. C'est quelque chose que Jonathan Drouin faisait bien au début de la saison. Souvenez-vous, là, au début de la saison, Drouin était même à un point par match à un moment donné, ou presque. Là. Et c'est vraiment un gars qui est un passeur élite en avantage numérique. Quand souvent, on le voyait sur le bord de la bande, puis la rondelle, vraiment, là, il la redistribuait tout de suite. Et il arrêtait pas la rondelle sur sa falaise, il redistribuait. Le jeu allait super vite. On voit moins ce type de jeu-là, très dynamique, là, où deux joueurs bougent. Aussi, souvent, on voyait Drouin bouger vers la défense. On voit pas ce genre d'initiative-là. Le jeu est plutôt statique, en fait, présentement. Ouais. Je pense que ça nuit un peu au Canadien, mais ceci dit, il peut pas s'inventer des passeurs. Tu sais, Kéké est un bon passeur. De façon générale, il en arrache sur l'avantage numérique. Je pense qu'il n'y a pas de point à ses 50 dernières minutes en avantage numérique. Là. C'est sûr que s'il retrouvait sa confiance, Kéké, puis qu'il pouvait jouer un petit peu le rôle que Drouin a joué au début de la saison, là, je parle pas dans les dernières semaines de Drouin, ça pourrait être plus dynamique. Mais il y a clairement là un problème, à mon avis, de jeu de passe en zone adverse.
Michael vient de m'envoyer un communiqué envoyé par John Tavares sur les médias sociaux. Ça vient de sortir. Donc, John Tavares qui, premièrement, remercie toute la communauté hockey, hein, les organisations, la Ligue et tout ça, les partisans pour tout le support qu'il a reçu, tout l'amour qu'il a reçu depuis 24 heures. Aussi, pris le temps de remercier les équipes médicales des deux organisations qui ont travaillé ensemble pour s'assurer que tout se passe bien pour lui. Donc, il est maintenant rentré à la maison donc c'est le début de cette convalescence pour lui. Et en attendant de pouvoir... porter à nouveau le maillot des Maple Leafs, il dit qu'il va encourager l'équipe, bien sûr, à partir de chez lui durant toutes ces séries éliminatoires. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour John Tavares. Et notre dernière question, c'est Luc Lang qui nous l'envoie. Est-ce que cette victoire du Canadien à Toronto, combinée à la sortie solide de Price et à la blessure de Tavares, fera son chemin dans le mental des Leafs?
C'est le cas. On a un sérieux problème du côté des Leafs de Toronto. Je pense que cette équipe-là va se regrouper, va jouer pour son capitaine qui sera absent. Et je m'attends à un feu d'artifice des Leafs de Toronto dans le prochain match.
Mais c'est sûr que là, je dis pas qu'il y a un doute qui s'installe, mais là, ils viennent de...
Non, ils viennent d'être réveillés.
C'est ça.
Ils sont
exactement
réveillés.
Il y a des obstacles devant eux qu'ils n'avaient pas il y a 24 heures.
Exact.
Ça, c'est certain. Michael, peut-être là-dessus?
Ben le non-verbal hier en disait long. Tu sais, Price, je mentionnais tantôt là, que c'est un gars qui qui est intimidant par quand il est dans sa bulle, quand on le sent justement décontracté, on le sent hyper calme, il devient déstabilisant pour ses rivaux. Et hier, on s'est arrivé à deux ou trois occasions, là, facilement en deuxième, en troisième période, on a vu des gars des Leafs, les faces crispées, regarder vers le ciel. Et ça, Price, ben quand on voit ça des rivaux du Canadien, ça veut dire que Price a cet effet mental-là. Alors, s'il retrouve encore une fois une autre performance du genre de celle du premier match, dans le deuxième match, puis dans le troisième match, mais oui, effectivement, ça peut semer quelque chose.
Alex, tu as le dernier mot sur ce sujet.
Ben, j'ai écrit comment là-dessus ce matin là, sur l'aspect mental, et je crois, comme Jérémy, que c'est sûr que ça va avoir un aspect, un impact en fait psychologique sur les joueurs, ce qui est arrivé à Tavares hier, parce que veux pas, tu te dis, ça se peut que ça m'arrive à moi aussi, là. C'est juste humain de penser comme ça. Hier, les joueurs étaient ébranlés. Ils l'ont un petit peu dit, mais à mots couverts après le match, mais... L'entraîneur-chef des Leafs, là, Sheldon Keefe, lui, a été très clair. Il dit, regarde, les joueurs, ils étaient shakés, ils étaient sonnés, ils étaient ébranlés de ce qui est arrivé. Après, entre les périodes, les joueurs posaient des questions. Et c'est là que je pense que les Leafs, moi aussi, vont se regrouper autour de cet accident-là, que ça sera un accident qui va être fédérateur, en fait, pour l'équipe. Puis que je pense que ça va souder les Leafs plus que les désunir. Et je pense que les Leafs vont rebondir très certainement demain.
En tout cas, écoutez, c'est un peu particulier de voir cette situation-là, parce que dans les années passées, c'est tellement souvent le Canadien qui se retrouve dans une situation où il y a des blessés de cette façon-là. Des fois, c'était des coups beaucoup plus sournois et tout ça, là. On pense à Richard Zetnik, entre autres, qui avait été blessé et tout ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres.
Il y a eu Pacioretty, il y a eu Heller, il y a eu McCleary qui a reçu une rondelle dans la gorge. Cavalier qui a eu le cancer aussi, quand même. Là. Oui. Donc, le Canadien a quand même été affecté là, par son lot d'événements là, depuis 20 ans.
Et là, ben, ça se retrouve de l'autre Price. Côté. Puis, oui, il y a Carey Price, exactement, contre Chris Kreider. Et, en tout cas, moi, j'ai aimé l'esprit sportif des gars hier. Parce que les gars sont restés là. C'est rare qu'on voit ça dans le sport aujourd'hui. Tu blesses un adversaire, même si c'est ton chum, c'est comme garde son
quand
c'est
banc, quand c'est grave, habituellement, tout le monde. Ouais, au hockey, c'est ça qu'on fait.
Ben, écoute, moi, j'ai trouvé que c'était un bel esprit sportif. Bon, les gars, on s'arrête là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reparler mercredi. Donc, mercredi, on va être au lendemain du match numéro 4. Donc, on va avoir 3 matchs à analyser. Donc, il y en a un demain soir contre les Maple Leafs samedi soir. Et les matchs 3 et 4, ce sera lundi et mardi. Donc, nous, on revient sans faute mercredi pour un autre épisode de Sortie de zone. Merci beaucoup à Michael Lalancette, Alexandre Pratt et Jérémy Rainville. Merci à Maxime P. Paquette aussi. On se retrouve sans faute la semaine prochaine. Salut et bonne série tout le monde.